Aujourd'hui, donc, nous sommes le 1er mai, qui est la fête du travail, fête qui n'est pas une fête religieuse. Pourquoi d'ailleurs ne serait-elle pas une fête religieuse ? Après tout, il peut y avoir une dimension spirituelle au fait de travailler ou de ne pas travailler. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la fête du travail tombe le jour du Seigneur. Et donc, je pense qu'il peut être bon de réfléchir justement à savoir quelle peut être la dimension religieuse du travail ou du non-travail. Et c'est d'ailleurs une chose curieuse, c'est que le travail est perçu d'une façon ambiguë par nous. Ceux qui le perdent parce qu'ils sont au chômage ou à la retraite souvent sont catastrophés et perdent le sens de leur vie ou de la propre image d'eux-mêmes. Et ceux qui travaillent regrettent de travailler trop. Et le paradoxe, c'est que le jour de la fête du travail, on fête le travail en ne travaillant pas. Ce qui n'est pas normal. Le jour de la fête de la musique, on ne dit pas, puisque c'est la fête de la musique, c'est formidable, personne ne fera de musique ce jour-là. Le jour de la fête de la musique, on fait de la musique. Le jour de la fête du travail, on devrait travailler. Ou alors, c'est que le travail est a priori considéré comme quelque chose de mauvais. Il faut dire d'ailleurs que dans la Bible, il y a quelques éléments pour aller dans ce sens. Le texte de la Genèse, en particulier, montre le travail comme une sorte de malédiction donnée par Dieu à Adam, de conséquence du péché originel qui fait qu'il est obligé de travailler à la sueur de son front. Mais par ailleurs, il y a plein d'autres passages dans la Bible qui valorisent le travail, comme dans le psaume 128, où il dit « Tu te nourriras du travail de tes mains, heureux es-tu ». Alors, quelle est cette contradiction apparente ? Je crois que cette contradiction n'est effectivement qu'apparente, parce que je ne crois pas que le travail soit une malédiction, et cela vient en fait d'une mauvaise compréhension de la Genèse. En effet, nous avons un petit peu l'idée, en lisant la Genèse trop vite, que c'est comme si avant, Adam était dans une sorte de béate inaction, comme si le paradis était une sorte de club méditerranéen où il pouvait se contenter de bronzer au soleil sans rien faire, et qu'après, puni par Dieu, il soit obligé de travailler. Mais ça, c'est faux, parce que dans le paradis, l'homme avait un travail. Il est dit dans la Genèse que Dieu mit l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Bon, cultiver et garder un jardin, c'est un travail, ce n'est pas rien faire en tout cas. Et si l'on regarde bien le texte, on s'aperçoit que la punition de Dieu, ce n'est pas le travail, mais c'est le fait que le travail devienne pénible, comme les enfantements de la mère. Or, il ne faut pas se tromper, quand dans la Bible on entend la notion de punition, il faut comprendre ce que cela veut dire. Bien sûr, je ne crois pas que Dieu punisse, parce que Dieu ne punit pas, Dieu n'est pas un père fouettard, Dieu n'est que source de grâce, de bonté, d'amour, de vie et de lumière. Mais quand dans la Bible on nous dit que Dieu punit, cela veut simplement dire que c'est une conséquence inéluctable d'un mal que l'on a fait. Ce n'est pas tellement que l'on fasse le mal et que du coup Dieu nous punisse d'une façon extérieure à ce mal, mais c'est plutôt pour mettre en garde et de dire « si vous agissez mal, il s'ensuivra automatiquement telle ou telle conséquence ». Et je crois que c'est exactement ce qui se passe dans cette histoire du péché originel. C'est de dire « si vous tombez dans le péché originel, inévitablement, le travail pour vous deviendra pénible et les enfantements deviendront douloureux ». Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le péché originel, ce n'est pas une faute qui aurait été commise il y a je ne sais pas combien de milliards d'années par un de nos lointains ancêtres et dont nous serions obligés de payer encore aujourd'hui les conséquences, ce qui serait très injuste. Mais le péché originel, c'est le péché à la base de tout péché. C'est l'erreur fondamentale, l'erreur centrale qui nous menace tous et qui est l'erreur je dirais vital, existentiel, qui fait basculer notre vie dans un sens ou dans l'autre. Et c'est donc le péché qui est à l'origine de tout péché et de toute perversion de notre propre existence. Et ce péché originel, eh bien, c'est bien connu, c'est le serpent qui dit de quoi il s'agit, puisque le serpent dit à Adam, « Si tu veux être égal à Dieu, mange de ce fruit. » Et effectivement, Adam va, je dirais, se mettre à la place de Dieu. Il va vouloir se considérer comme le centre du monde et déclarer bon ce qui lui plaît. Au lieu de regarder ce qu'il a à faire ou à ne pas faire par rapport à, je dirais, des critères d'absolu, par rapport à un critère qui viendrait de Dieu. Dieu, ça représente l'absolu, la transcendance. Au lieu de considérer qu'il y a des règles qui nous dépassent et qu'il peut y avoir des raisons au-delà de nous-mêmes pour lesquelles nous ferions ceci ou pas cela, Adam va simplement considérer qu'il veut faire quelque chose parce qu'il en a envie. Autrement dit, il se prend lui-même pour Dieu, c'est-à-dire pour le critère du bien et du mal. C'est ça, manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire prétendre être soi-même la source même du bien et du mal, et de pouvoir décider par rapport à soi-même et par rapport à sa propre petite personne ce que l'on déclare bien et ce que l'on déclare mal. Et c'est bien ce qui va se passer, va prendre le fruit, Ève va prendre le fruit, elle va dire « Tiens, je trouve que c'est bon, bon au goût, agréable », et donc elle va dire « Je déclare que c'est bon parce que ça me plaît ». Et donc ça, c'est extrêmement dangereux. Lorsque justement on se place soi-même au centre de tout, au lieu de se préoccuper de l'absolu, c'est-à-dire de Dieu, et au lieu de se préoccuper de l'universel, c'est-à-dire des autres. Et quand on tombe dans cette espèce d'égoïsme extraordinaire, alors effectivement, le travail devient pénible et l'enfantement douloureux. Parce qu'en effet, si par exemple, je vais passer le dimanche à servir des repas pour les SDF, quand arrive le dimanche soir, quel regard aurais-je sur ma journée ? Si je regarde simplement par rapport à moi, je dirais j'ai passé une mauvaise journée parce que j'ai mal au dos, je me suis fatigué, j'ai dû m'arranger avec des gens qui ne sont pas forcément commodes et j'aurais pu à la place aller au cinéma, me faire plaisir ou me reposer. Mais si je regarde par rapport à l'œuvre accomplie, je me dis là j'ai passé une excellente journée. Parce que j'ai donné de l'amitié, de l'attention, de l'affection à des gens qui en avaient besoin, j'ai nourri des gens qui avaient faim, j'ai partagé des choses avec des frères humains peut-être moins favorisés que moi, donc oui, j'ai fait une grande chose de mon dimanche. Et ainsi, vous voyez que le regard sera entièrement différent, suivant que je considère ce que je fais par rapport à moi ou par rapport à l'œuvre accomplie. Et donc, effectivement, Adam, qui tombe dans le péché originel et qui déclare une chose bonne si elle lui fait plaisir, déclarera que cette journée est mauvaise et que le travail le fatigue. Et c'est la même chose pour l'enfantement. Une mère qui met au monde, s'il regarde par rapport à elle, va dire « L'accouchement est une chose horrible, c'est une douleur, une souffrance ». Paraît-il une des souffrances les plus dures que puisse supporter un être humain. Mais si au lieu de penser à elle, elle pense à l'enfant qu'elle met au monde, alors elle dira « L'enfantement est la plus belle et la plus grande des choses, parce que je donne la vie, avec l'aide de Dieu, à un être vivant. » Et c'est ce que dit Jean dans chapitre 16, au verset 21, quand Jésus dit « La mère, au moment où elle accouche, trouve que c'est très mauvais, mais une fois qu'elle a accouché, elle dit « j'ai participé à une des plus belles choses qui soit ». C'est-à-dire que le travail, qui d'ailleurs entre nous s'entend aussi bien pour l'accouchement d'une femme que pour le travail que l'on peut accomplir dans la journée, autrement, ordinairement, le travail pour soi est toujours une chose pénible, mais elle peut devenir une belle chose si elle s'ouvre vers les autres. Et je crois que là, il y a une clé pour essayer de comprendre justement quelle peut être la valeur du travail. C'est que le travail peut être bon de plusieurs manières. Il peut être bon d'abord, bien sûr, si c'est un travail utile. C'est-à-dire si je fais quelque chose qui apporte quelque chose aux autres, si par mon action ou par mon travail, je contribue à un monde meilleur, et par mon travail, j'apporte de la joie et je soulage la peine des autres. Et là, il n'y a aucun doute, ce travail-là est une très grande chose. C'est participer à la création divine. C'est faire une œuvre spirituelle. Et en ce sens, je crois que c'est une grande chance pour ceux qui ont une profession, un travail rémunéré qui est comme ça. Les médecins, les infirmières, les pompiers, les pasteurs, ces gens-là font les métiers qui sont, je dirais, les plus beaux métiers du monde, ou tout au moins les plus valorisants, parce qu'ils travaillent et en même temps, par leur travail, ils font quelque chose extraordinairement enrichissant, créatif et enthousiasmant. Mais maintenant, tous les métiers que nous faisons ne sont pas tous des métiers aussi extraordinaires. Et il y a des gens qui sont à la chaîne dans des usines, il y a des comptables qui alignent des chiffres, ou des gens qui font, je ne sais pas quoi, moi, ce qu'on leur donne de faire, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Alors là, on peut toujours s'en sortir en disant qu'après tout, tout métier est utile, parce que, après tout, j'ai bien besoin, moi, qu'il y ait quelqu'un qui fasse mes comptes de mon compte chèque. J'ai bien besoin qu'il y ait des gens qui construisent ma voiture et des gens qui ramassent mes poubelles. Et donc, tout travail dans la société est utile, parce qu'il permet d'avoir un rôle dans la société. Mais je reconnais que ce n'est pas toujours très enthousiasmant. Ce qu'il faut reconnaître néanmoins, c'est que les bonnes œuvres que nous faisons, c'est-à-dire le travail justement utile, créatif, le travail un peu divin que nous pouvons faire dans ce monde, le problème c'est que ces activités ne sont pas forcément salariées. Et là, il ne faut pas confondre la valeur d'un travail avec sa rémunération. Il est évident que ça n'a rien à voir. Il y a des métiers très bien payés qui sont à peu près nuls d'un point de vue spirituel, et il y a des métiers ou des travaux extraordinaires qui sont très mal payés, voire même pas du tout payés. Et je crois que ça, c'est essentiel de voir qu'effectivement, il y a aussi un travail que nous faisons dans le monde sans être salariés. Et je pense en particulier aux mères au foyer, aux femmes au foyer, ou aux hommes au foyer d'ailleurs, ou alors à tout le bénévolat qui existe. Et cela, ce n'est pas rien faire. Et je sais que les personnes qui s'occupent, par exemple, de leurs enfants ou de leur famille, quand on leur demande quelle est votre profession et qu'elles répondent « néant », sont toujours très choquées de cette situation, parce qu'elles disent « non, je ne suis peut-être pas payée, mais je ne fais pas rien ». Et là, ça doit nous donner déjà une solution à quelque chose. En particulier à des situations que certains vivent mal, comme le chômage ou la retraite, c'est de ne pas confondre le travail salarié et l'œuvre dans ce monde. On peut toujours faire plein de choses constructives pour les autres et dans ce monde en fonction de ses talents, que ce soit payé ou non. Ça n'a rien à voir. Être payé, il le faut bien pour vivre matériellement dans ce monde. Mais notre travail ne se limite pas à ce que nous faisons en tant que salariés. Et donc c'est vrai que ceux qui arrivent à cumuler les deux et à faire à la fois un travail et que ce travail c'est en plus quelque chose qui les enthousiasme, alors c'est une grande chance. Et je dirais pour tous les jeunes qui recherchent peut-être à trouver un travail aujourd'hui que certainement le plus beau métier du monde c'est celui que l'on ferait même si l'on n'était pas payé. Ensuite, il y a effectivement des gens, vous disais-je, qui gagnent leur vie ou qui gagnent la vie de leur famille en faisant un travail pénible. Eh bien, c'est déjà bien, mais si ce travail est vraiment absurde et n'apporte rien, que faire? Eh bien, il y a plusieurs issues. La première, j'ai déjà un petit peu évoquée, c'est de dire, écoutez, après tout, dans la semaine, il n'y a pas que 35 heures. Et donc, on peut faire, en dehors des 35 heures où nous travaillons notre travail embêtant, plein de choses utiles et bonnes. Et effectivement, on ne peut pas être divin à plein temps. Et donc, il y a plein de moments où on fait des choses qui ne sont pas très utiles, pas très constructives, pas très édifiantes. Eh bien, bon, pendant 35 heures, vous faites un métier ennuyeux pour gagner la vie de votre famille. Bah, écoutez, c'est déjà ça. Mais il reste encore beaucoup d'autres heures. Et par conséquent, garder du temps pour les autres, ça, c'est essentiel. Garder du temps pour faire autre chose en dehors de ce travail. Et je dirais que ces engagements que les uns et les autres avaient, en dehors de votre travail peut-être ennuyeux, d'une certaine manière, rachètent le temps et peut redonner le sens à toute une vie. Et en effet, c'est quand même un petit peu parce que l'on fait que l'on ressemble à Dieu. Parce que Dieu, lui, ne fait pas rien. Il a travaillé dur pour créer le monde. Il a travaillé 6 jours. Et travailler, c'est vraiment une chose essentielle pour l'homme. Une fois de plus, pas forcément comme salarié, mais de se considérer soi-même comme un acteur dans ce monde. Et de se dire, là où je ressemble à Dieu, c'est en tant que j'accepte de travailler dans ce monde pour essayer de faire en sorte d'obtenir un monde qui soit meilleur, un monde plus fraternel, un monde, je dirais, qui apporte des choses, qui grandisse, qui progresse, qui s'élève un petit peu au-dessus du matérialisme pur. Et il est important que dans ma vie, je trouve cette dimension d'une action. Donc si je ne l'ai pas, dans mon métier salarié, je peux le trouver ailleurs. Mais en tout cas, il est essentiel de trouver un lieu dans lequel on s'engage pour faire quelque chose. Et je crois même que le travail, c'est le privilège de l'homme. Il n'y a que l'homme qui peut travailler ou qui travaille. Les animaux se nourrissent, c'est tout. Et donc il n'y a que l'homme qui travaille pour qui lui permet de donner pour les autres, de créer du bien, de la paix, du mieux vivre, du bonheur pour tous ceux qui nous sont confiés auprès ou au loin. Et donc première chose, si on a un travail ennuyeux, se dire il y a une vie en dehors du travail en quelque sorte. La deuxième issue pour racheter ce travail, c'est de se dire que le lieu de travail, c'est aussi une société dans laquelle on est, et un lieu, c'est un lieu dans lequel on peut avoir une œuvre humaine. Et quel que soit l'endroit où l'on travaille, même si ce que l'on fait n'est pas très intéressant, l'important dans la vie, ce n'est pas tellement ce que l'on fait, mais c'est la relation que l'on a avec les autres. Et le propre du travail, c'est que le plus souvent, on est avec d'autres. Et donc, dans ce lieu même, on peut apporter de la joie, de l'amitié, de la fidélité, de l'espérance. On peut encourager, accompagner. Ça veut dire que même notre travail idiot peut être un lieu d'apostolat. Et après tout, pourquoi pas? Et puis enfin, troisième manière, peut-être plus discutable, mais qui est très enracinée dans la tradition protestante, c'est de dire que tout travail, même idiot, peut devenir une prière adressée à Dieu. C'est-à-dire qu'on peut convertir un travail, même si ce travail n'a aucun sens, on peut le convertir comme une action spirituelle. Et donc cette fois, voyez-vous, non pas en disant « j'utilise mon travail pour le tourner vers les autres, pour me tourner vers les autres, mais j'utilise mon travail pour me tourner vers Dieu ». Alors là, c'est possible aussi, par exemple, celui qui ferait un travail non seulement idiot, mais en plus solitaire. Là, ça devient très compliqué. Eh bien, celui-là, il peut au moins convertir son travail en disant « je le fais et je tourne ce travail, j'utilise ce travail idiot pour me tourner vers Dieu ». Il y a plusieurs manières de faire ça. D'abord, il y a la façon avec laquelle l'on comprit la tradition rabbinique. Dans la tradition rabbinique, on disait « un rabbin doit travailler ». Mais en gros, il y a que deux métiers possibles, hein. Soit il fait un métier très utile dans le monde pour son prochain, soit il doit faire un métier le plus bête possible, qui ne lui prenne pas l'esprit, pour qu'il puisse, en faisant ce travail idiot, méditer, prier, penser à Dieu. On a un exemple de cela dans notre Bible, où Paul avait un métier fondamentalement rabbinique. Qui c'est le métier de Paul? Tiens, ça c'est une bonne question. C'est dit dans une de ses épîtres, il l'explique. Eh bien, Paul était couseur de tentes. Il cousait des tentes. Et ça, c'est typiquement un métier rabbinique parce qu'on peut coudre sans y mettre son attention, comme quelqu'un peut faire un tricot ou du crochet. Ça demande un peu d'attention de temps en temps, mais pas tout le temps. Et donc, pendant ce temps-là, on peut prier Dieu. L'autre manière qu'est la façon protestante de faire, c'est de dire « Ce travail idiot que je fais, je vais le faire non pas comme pour mon patron imbécile, mais je vais le faire comme pour Dieu. Et je vais travailler non pas pour les hommes, mais pour Dieu. Et du coup, ce que je fais, c'est une offrande que je fais à Dieu. » On a ça dans l'histoire dans notre histoire religieuse de différentes manières, comme Jean-Sébastien Bach, qui signait chacune de ses œuvres SDG, c'est-à-dire Soli Deo Gloria, pour la seule gloire de Dieu. Et donc Bach composait sa musique, non pas pour avoir un succès mondain, mais il le composait de tout son cœur, le mieux qu'il pouvait, pour Dieu. Et du coup, chacune des heures qu'il passait à composer était une prière adressée à Dieu. Et c'est aussi ce qu'avait fait la femme de ménage de ma grand-mère, dont je vous ai déjà parlé, qui s'était convertie au christianisme. Et un jour où quelqu'un lui demande « Mais qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre vie de vous être convertie ?» Elle a dit « Eh bien, ce que ça a changé, c'est que avant je ne balayais pas sous les lits, maintenant je balaye sous les lits. » Alors pourquoi ? Elle disait « Parce qu'avant je travaillais pour ma patronne en faisant ce qu'elle pouvait voir, mais maintenant je ne travaille pas pour elle, je travaille pour Dieu. » Et donc, j'y mets tout mon cœur. Et du coup, sa vie entière était transformée, parce qu'elle était transformée dans une espèce, alors qu'elle était avant une sorte d'esclave domestique, elle était devenue la servante du Seigneur, celle qui travaille gratuitement pour Dieu. Et du coup, chacun de ses actes, même anodins, peut devenir une sorte de prière adressée à Dieu, où on applique ce que dit Paul dans ses épîtres en disant « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, et quoi que vous fassiez, faites-le en rendant grâce à Dieu. » Et donc la question, voyez-vous, dans tout cela, c'est toujours la question du sens. C'est-à-dire que le travail est bon quand il a du sens. Soit qu'il ait du sens en soi, donc ça c'est de la chance, vous êtes infirmière, bah écoutez, c'est merveilleux. Soit parce que le travail n'a pas beaucoup de sens, mais qu'on va lui en trouver un. On va lui donner du sens. Et donner du sens à quelque chose, c'est se tourner, ou tourner cette chose plutôt, vers autre chose qui le dépasse, c'est-à-dire vers un objectif, vers un idéal et vers une mission. Et c'est peut-être ça aussi la clé, c'est que pour trouver le sens du travail, il faut sortir du travail pour essayer de voir plus loin, autrement dit, que ce que l'on fait. Et c'est comme notre vie d'ailleurs. Notre vie elle-même, son sens est donné, non pas tellement par ce que l'on fait tous les jours, mais il est donné par ce vers quoi on la tourne, par ce à quoi on la destine, autrement dit. C'est le sens qu'on lui donne, c'est ce qu'on appelle le salut par la foi. Quand notre vie, elle est attirée par autre chose que nous-mêmes, et quand on l'ouvre sur autre chose, sur un monde, sur un idéal, sur un objectif. Donc finalement, c'est la foi qui donne du sens au travail. La foi, c'est-à-dire l'idéal, l'objectif, ce vers quoi on tourne sa vie, et la quête que nous avons dans notre existence. Et c'est cet objectif, cette quête fondamentale de notre vie, cette visée de notre vie, qu'on appelle la foi. Et c'est ça qui donne sens à notre vie, et qui donne sens aussi à tout ce que nous pouvons faire et à notre travail. C'est donc la foi qui donne sens à notre vie et à ce que nous y faisons, à notre travail. Et ce n'est pas le travail qui peut donner du sens à une vie. Ça, c'est essentiel de le dire, parce qu'il y a un grand danger, le grand danger dans lequel nous tombons tous un petit peu, plus ou moins, qui serait de croire que notre vie ne tienne que par ce que l'on fait et que par le rôle que l'on joue dans la société. Mais la quête de sens doit précéder le travail, sinon le travail en lui-même ne devient qu'une vaine agitation. Ça c'est dit dans l'Ecclésiaste. Si vous voulez relativiser tout ça, lisez l'Ecclésiaste, c'est extraordinaire. Où il dit en 1,14, « J'ai vu tous les travaux qui se font sous le soleil, voici, tout cela n'est que vanité et poursuite du vent. » Effectivement, nous ne sommes pas sauvés par notre travail, mais nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. C'est la foi qui fera que mes œuvres sont bonnes et pas le contraire. Et donc, avant de poser la question du travail, je dois me poser la question du sens et de la foi. Et ça, c'est la signification du commandement du sabbat. Tu travailleras 6 jours, et le 7e, tu ne travailleras pas. C'est simplement pour dire qu'il faut éviter de se noyer dans son activité, être capable de vivre en dehors de son travail, ne pas s'identifier à son action, ne pas s'identifier à ce que l'on fait ou à ce que l'on ne fait pas. Je pense en particulier même à celui qui est au chômage. Je dirais, cherchez du travail 6 jours, mais le 7e, n'en cherchez pas. Parce que nous ne devons pas nous identifier à ce que nous faisons ou à ce que nous ne faisons pas, à ce que nous voudrions faire ou à ce que nous ne pouvons plus faire. Et c'est donc le 7e jour qui est le jour de la quête du sens, qui donne sens aux 6 autres. Parce que le sens de ma vie tient par autre chose que par mon utilité dans le monde. Et c'est là où je dois relativiser même un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que je vous ai dit, oui c'est vrai, le travail rémunéré, finalement je m'en fiche un peu, mais l'important c'est de faire quelque chose dans ce monde. Et même là, ai-je eu raison de dire une chose pareille ? Ma vie a-t-elle un sens parce que je suis capable d'apporter aux autres ? C'est très discutable, parce que le nourrisson, le bébé, ne fait pas un grand travail dans ce monde, pourtant il a une valeur fondamentale. Et donc finalement, le sens de ma vie, il ne m'est pas tellement donné par ce que je fais, mais il m'est donné par l'amour de Dieu. Et il ne faut donc pas s'identifier à son travail, ni à son absence de travail. Je ne dois pas m'identifier à ce que je fais, mais je m'identifie à ce que je suis en tant qu'être aimé, capable d'aimer, et je m'identifie à ce en quoi je crois. Après, on fait ce qu'on peut dans la vie pour essayer d'avancer vers cet idéal qui nous est donné, mais on ne nous demande pas d'arriver à l'idéal, on nous demande juste d'avoir cet idéal. Et donc l'important, ce n'est pas tellement ce que nous faisons, mais c'est bien ce en quoi nous croyons et ce que nous voudrions ou ce que nous voulons mettre en œuvre dans notre vie. Donc le travail peut être une belle chose et pourtant il comporte des risques importants, vous l'avez compris. Il est dangereux s'il est considéré seulement pour soi et non pour l'œuvre qu'il accomplit. Il est dangereux si on attend tout de lui pour donner du sens à notre vie. Il est dangereux s'il dévore, phagocyte notre vie et nous empêche de penser ou de faire autre chose. Il est dangereux parce qu'alors il peut devenir destructeur, soit maintenant parce qu'il me pompe de tout ce que j'ai à faire et il m'empêche d'agir pour les autres et de donner. Ou il est dangereux parce que un jour ou l'autre, ce travail que j'aime tant, je le perdrai. Et à ce moment-là, que sera mon existence ? Et pourtant, ce travail, il est bon. Il est bon quand il a du sens en soi-même. Il est bon parce qu'il accomplit. Il est bon parce qu'il participe à la création d'un monde meilleur. Ou il est bon, même comme le travail des enfants, parce qu'il crée quelque chose. Les enfants qui vont à l'école font un travail extrêmement utile. Ils prolongent l'œuvre de la création, de leur propre genèse, en quelque sorte. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce travail, il est bon, même s'il nous permet de gagner notre pain. Il est vrai que si on n'a aucune ressource, ça pose un problème. Mais encore que le corps est plus que le vêtement, la vie est plus que le boire et manger, et donc l'essentiel n'est certainement pas le salaire. Mais toujours donc il faut garder une distance par rapport à cette œuvre. Parce que le salut est en Dieu seul, le sens de notre vie est en Dieu seul, et le sens de notre vie ne tient que dans une seule chose, c'est notre capacité à aimer et à être aimé. Tout le reste, ce sont des miroirs aux alouettes qui nous attirent pour mieux nous abattre. Et puis souvenez-vous que quoi que vous fassiez, si nous le faisons sans Dieu, comme une œuvre humaine, cela ne mène qu'à peu de choses. C'est ce que nous dit le psaume 127, ah oui, juste avant le 128 que je vous ai lu, qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. C'est en vain que tu devances le jour, en vain que tu retardes le moment de ton repos, en vain que tu manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. » Des fils, voilà ce que donne l'Éternel, des enfants, la récompense qu'il accorde. La plus grande chose de notre vie, c'est quand il y a, non pas des enfants dans la chair, mais quelque chose qui vient de nous et qui est donné dans le monde comme une vie pour le monde. Que ce soit dans son travail ou ailleurs, ça, c'est la plus belle chose qui nous soit donnée. Amen.